Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, Jean-Noël Mokondo est maintenant aux commandes de la technique. Théophile Mompalo est notre invité aujourd'hui. Avec lui, nous allons parler des préparatifs des épreuves hors session, de l'examen d'État. Voilà, les élèves se préparent déjà à passer ces examens qui vont se dérouler à partir du 2 mai 2016. Et comment bien se préparer, voilà. Théophile Mompalo, bonjour.
Bonjour,
Kacham. Voilà, vous êtes spécialiste en sciences de l'éducation. Dites-nous, comment est-ce que les élèves, les finalistes du secondaire, peuvent-ils se préparer à affronter les examens hors session de l'examen d'État, édition 2015-2016?
Bien, merci pour la question. Les élèves doivent se préparer obligatoirement parce qu'il s'agit de l'évaluation certificative. Vous savez, quand on s'engage dans les études, il y a des étapes. Et parmi ces étapes, il y a la fin. À la fin, je parle de l'évaluation certificative, c'est que les examens d'État s'inscrivent dans ce cadre-là. À la fin, on octroie un diplôme, un papier, un parchemin, que ce soit un certificat, que ce soit un diplôme, que ce soit autre chose. Mais ici, plus précisément, il s'agit de diplômes d'État. Alors, pour y arriver, c'est pas tout le monde. On peut être 10, mais il y en a 2 qui réussissent. Alors, pour réussir, il faut avoir un objectif. Et cet objectif peut se diviser en plusieurs étapes, parce que les responsabilités sont partagées. Deux enfants qui attendent le diplôme d'État viennent de quelque part. Ils viennent des parents. Donc, la responsabilité incombe aussi à leurs parents. Il y a également l'école où ils sont inscrits. Nécessairement, l'école doit prendre des dispositions conséquentes pour favoriser cette obtention de diplôme. Il y a également eux-mêmes, dans la mesure où ils ne passent pas leur temps à suivre la télévision, ils laissent un moment pour étudier. Et cela, ce sont des paramètres qui favorisent justement l'obtention de ce diplôme d'État. Je commence par les parents. Les parents sont obligés d'être en contact avec l'école. Les parents sont obligés de payer les frais tels que c'est exigé. Pour l'exercice en cours, vous savez, ça coûte 22 500 en ce qui concerne le diplôme de dissertation et le reste aussi, parce que c'est 2 tranches et des examens proprement dits, il faudra aussi revenir à payer ce montant-là. Dans la mesure où les parents se dérangent pour suivre la scolarité de leurs enfants, pour les encourager, pour que ces enfants ne puissent pas aller à l'école affamés, ou même s'ils vont, ils ont mangé, mais qui ne mangent pas n'importe quoi. Ceux qui, par exemple, ingurgitent du foufou, quand ils arrivent à l'école, au moment où ils étudient, ou bien au moment où ils doivent étudier pour préparer les examens d'État, eh bien, ils vont dormir, ce n'est pas correct. Donc, ils doivent se préparer en conséquence. Ça, c'est du point de vue des parents. Les parents doivent être en contact avec l'école pour suivre un peu le cheminement scolaire de leurs enfants. Ça, c'est du côté des parents. Du côté des élèves, je reviendrai un peu sur l'école à la fin, les élèves doivent être studieux, ne pas passer leur temps à faire n'importe quoi. Il faudra qu'ils aient un moment pour étudier, ils aient un moment pour se divertir, ils aient un moment pour manger, ainsi de suite. Il faut que cet horaire soit respecté et que les parents qui le suivent puissent veiller à ce respect-là. Au niveau de l'école, l'école doit veiller à ce que le programme soit arriver à terme. Il faudra que ce programme arrive à la fin. Quand le programme n'est pas respecté, il s'agit du programme national, bien sûr, si le programme n'est pas respecté, les élèves arriveront aux examens avec inquiétude, parce qu'ils sauront que dans telle matière, nous n'avons pas terminé le programme, peut-être qu'il y aura des items, des questions qui vont se poser là-dessus, et qu'est-ce que nous ferons? Ce n'est pas correct. Donc il faudra que l'école prenne toutes les dispositions pour terminer le programme national. Il faudra que l'école mette des conditions telles que la concentration puisse être au top. Il faut que ces étudiants, ces élèves-là, puissent se préparer en conséquence, qu'ils soient concentrés. Il faut que les effectifs puissent être disons, puissent respecter les normes, comme c'est demandé par les institutions de l'État et des ministères, ainsi de suite. Il faudra que les élèves soient dans des conditions de concentration, de travail tout azimut. À défaut, ça n'ira pas. Voilà un peu, procès, grosso modo, n'est-ce pas, par rapport à la question que vous avez posée. Comment les... Alors,
oui. Alors,
il faudra que l'école, s'il vous plaît, prévoit également le temps pour faire des exercices. Vous savez que y a ce qu'on appelle, à part les examens de fait qui font partie de l'évaluation certificative à la fin de l'année, il y a des évaluations qui précèdent. Il faudra faire des examens, il faudra faire passer des interros pour suivre un peu cette évolution-là. Ça, c'est l'école, n'est-ce pas? Il ne faut pas que le directeur qui là passe son temps à aller demander l'argent pour venir soutenir les enseignants, payer les frais de motivation comme il se doit, mais qu'il puisse avoir le temps de vérifier qu'est-ce que les enseignants transmettent comme matière, est-ce qu'ils respectent le programme, est-ce qu'ils font quoi, ainsi de suite. Il y a des examens. À part ces examens-là, il faudra, j'attire l'attention des enseignants. Quand il s'agit de la première évaluation formative, donc au cours de l'année, qui n'est pas l'imprudence d'utiliser les items des années passées juste au début de l'année. Ils peuvent utiliser ces items-là juste quelques temps avant les examens d'État, surtout les items de l'année précédente.
Oui, alors
à ce moment-là, par rapport aux questions posées par les élèves, eh bien, ils peuvent trouver des réponses conséquentes.
Oui, Théophile Montpalo, quels sont les examens que les élèves passent généralement lors de ces épreuves hors session?
En session normale.
Hors session, donc ils se préparent pour passer les épreuves hors session.
Oui.
Alors, quelles sont les matières ou les examens qui reviennent souvent?
Bon, vous avez la dissertation, c'est hors session.
Oui.
La dissertation, c'est hors session. La pratique, le jury pratique, les épreuves pratiques, ceux qui font mécanique, il y a l'atelier, tout ça, mais c'est tout le monde qui font ça. Il y a aussi le français oral. Le français oral aussi, c'est en dehors des épreuves proprement dites, d'État, disons en cours normal. Ça se passe hors session. Donc, je répète, il y a la dissertation, il y a le français oral, et puis le jury pratique.
Voilà. Par exemple, pour avant de poser la question, je vois déjà quelques auditeurs en ligne. Kabeya, il est à Kananga, Nassor nous appelle des Kindou, on va les accueillir et puis on va poursuivre notre entretien. Vous voulez également participer, appelez-nous au 081-890-63-94.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Comment bien préparer les épreuves hors session de l'examen d'État, édition 2015-2016, voilà. On en parle avec notre invité, Théophile Mumpalo. Kabeya est à Kananga, Nassor nous appelle des Kindou. Bonjour Kabeya. Kabeya de Kananga, bonjour. Voilà, il n'est plus là. Nassor de Kindou, bonjour.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi qui sont connectés à ce moment précis.
Quelle est votre question?
Le sujet que nous sommes en train d'aborder, c'est un sujet très pertinent. Je vais juste me limiter aujourd'hui à trois petites questions. La première question, c'est à savoir quelles sont les méthodes ou les techniques qu'un élève peut utiliser quand il est devant le papier de l'examen. Donc, quels sont les moyens qu'il peut utiliser pour ne pas arriver à être traumatisé? C'est ça la première question. Donc, les techniques et méthodes qu'un élève peut utiliser pour ne pas arriver à être traumatisé devant les papiers de l'examen. La deuxième question demande les conseils que vous pouvez donner envers les surveillants là qui veulent souvent... ils veulent souvent intimider les élèves à dire que l'examen est trop difficile, l'examen ceci. Maintenant, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces surveillants? Et la troisième question demande aussi les conseils que vous pouvez donner envers les élèves qui veulent souvent prendre les choses par, donc à l'extérieur, dire ceci, donc tricher. Donc les conseils que vous pouvez donner aux gens qui veulent souvent la tricherie. C'est ça vraiment mes trois questions.
Merci. Merci. Voilà, comment faire pour ne pas être traumatisé lorsqu'on se retrouve dans la salle d'examen. Théophile, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Je suis à vous. Bon, il faudra que les enseignants, l'enseignant prenne soin de dire aux élèves au début que les examens d'État sont tout à fait comme les autres examens. Ce sont les examens scolaires. Hein? Alors, il doit leur dire qu'ils doivent être réguliers au cours, suivre le programme. Oui, l'enseignant est obligé de respecter le programme parce que les questions qu'on pose aux examens d'État, c'est par rapport au programme suivi. Donc, les élèves doivent être réguliers ou pour suivre la matière conformément au programme. Ça, c'est un. De deux, les élèves doivent être initiés à bien remplir la grille électronique, la grille concernant leur identification. Ils doivent le faire. Alors, dès qu'ils remplissent, et puis se concentrer clair, et leur dire que ceux qui réussissent aux examens de l'école, ce sont ceux qui réussiront aussi aux examens d'État, parce que ce sont les mêmes examens, absolument. Donc, il n'y a pas à craindre.
Voilà, il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à craindre.
Voilà. Donc, il n'y a pas question d'être stressé devant ça.
D'accord. Théophile Mompal, vous avez dit, les élèves vont passer la dissertation. Alors, par rapport à la dissertation, on sait qu'il y a souvent des sujets à commenter, il faut expliquer, il faut lire. Alors, comment est-ce que les enseignants en cette période peuvent aider les enfants? Je sais que dans certaines écoles, on cherche les items des années antérieures et on travaille ensemble avec les élèves.
Oui, je l'ai bien dit. Il faut éviter de prendre des questions antérieures de façon précipitée. Autrement, les élèves vont verser dans la paresse, dans l'oisivité, dans le manque de concentration, ce qui n'est pas correct. Alors, qu'est-ce que les enseignants doivent faire? Il y a des procédures pour faire une dissertation. Ils doivent respecter cette procédure-là. En quoi ça consiste, cette procédure? Il y a des étapes. On donne un sujet. Et pour décortiquer le sens de ce sujet-là, les élèves doivent, dans un premier temps, décortiquer les termes de base, les termes, les mots-clés. C'est comme ceux qui font les travaux de fin d'études, etc. Donc, vous décortiquez les mots-clés, vous expliquez ces mots-là. Dès que vous constatez, vous avez la quintessence de ce mot de base, ces termes-clés, à ce moment-là, ça vous donne une image sur le sens de la question posée. C'est déjà beaucoup. Alors, dès qu'il a ce sens-là, il passe à l'introduction, il introduit son sujet. Et puis, il le développe par des exemples concrets. Après ces exemples concrets, il passe à la conclusion. C'est clair. À ce moment-là, l'enseignant doit se baser sur la possibilité des questions qui seront posées aux examens d'État. Ces questions, généralement, sont soit sur l'éthique, il y a des questions concernant l'éthique, il y a des questions concernant la société, il y a plusieurs questions, des questions d'actualité. Maintenant, on parle du dialogue. On peut poser une question sur le dialogue, qu'est-ce que vous pensez du dialogue, etc. Ça, c'est une question peut tomber là-dessus, une question politique. Et les élèves sont obligés de respecter toutes ces étapes calmement pour pouvoir réussir. Et il peut également exploiter les anciennes questions. Mais je dis bien, ces anciennes questions, il doit les exploiter 2-3 jours avant la dissertation. Il corrige avec les collègues. Et là, je voudrais, peut-être qu'il y aura une question qui sera posée là-dessus. Soit en classe, pendant la révision, ou bien l'école, s'il arrive que l'école organise ce que les élèves appellent le maquis, parce qu'il faut que ça soit l'émanation de l'école, eh bien, ça sera bien respecté, parce que le directeur va
Théophile,
les spécialistes à la matière pour pouvoir aider ces élèves-là.
Oui, Théophile Mompalo, on va accueillir Aloïs Sakaji de Luisa. Bonjour Aloïs.
Bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachama et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Aloïs?
Oui, j'ai une préoccupation qui me tient vraiment au cœur et à laquelle je voudrais poser cette question. Pour rappel, je suis un ancien de l'université depuis le début de cette année scolaire dans notre école. J'ai eu la chance d'encadrer des finalistes dans les cours de français. Dans cette classe de 6e littéraire et sociale, où les petits remontent au nombre de 27 élèves, mais grande est ma désolation de constater que depuis le début de l'année scolaire, je n'ai jamais compté dans la salle de classe ma présence de 15 élèves en aucun jour.
Vous avez oui, vous avez une classe de 27 élèves et depuis le début de l'année, aucun élève ne s'est présenté.
Non, j'ai dit, depuis le début de l'année, j'ai fait compter 5 ou 6, mais je n'ai jamais compté dans la classe 15 élèves sur 27.
Oui.
Alors, la leçon même de la dissertation dont il est question, je l'ai dispensé en face de 2, 3, 5 ou 6 élèves pendant toute la leçon. Alors, ma première question était celle de savoir. Qu'est-ce que l'invité peut me donner comme orientation? J'espère que je puisse récupérer ces élèves. D'ailleurs, pendant certains moments, j'ai organisé les classes de rattrapage. Je ne savais pas répondre à la première question. La deuxième question, quel conseil l'invité peut poser à ses élèves pour être à même de s'affronter à ses rêves malgré leur impréparation?
D'accord, merci. Théophile Mumpalo, vous avez certainement suivi avec difficulté la question.
Oui. Sauf la deuxième question, mais à la première, je peux répondre immédiatement.
Oui, un instant. Théophile Mumpalo, si vous avez une radio à côté de vous, veuillez la fermer ou éloignez-vous de votre récepteur pour éviter ces effets retour à l'antenne, ces effets Larsen à l'antenne.
Ok. Bon, c'est fait? Je réponds à la première question, n'est-ce pas?
Voilà.
Bon,
allez-y.
Écoutez, les examens que font les élèves là, les points qu'ils obtiennent, il y a une quantité qui est que on demande pour laquelle on demande aux directions scolaires, aux écoles d'envoyer à la hiérarchie, sur on appelle ça la liste S13. Alors, si cet enseignant dit aux élèves que attention. Si vous êtes absent et que je vous interroge et que il adviendra que j'envoie les points, et si je dois envoyer un zéro, ça risque d'être pesant pour vous aux examens d'État. Donc il faut motiver les élèves à partir du début de l'année. Leur dire attention, il n'y a pas que l'examen d'État qui vous est demandé de préparer du point de vue de la réussite, mais également du point de vue des points que vous allez obtenir, du point de vue quantitatif. Parce que ce point-là, on va les inscrire sur la liste S13 pour les transmettre à qui de droit, au niveau des autorités, et on en tiendra compte. Et si vous dites ça aux élèves, ne croyez pas qu'ils vont fuir. Ils seront toujours là.
Alors maintenant, il a une classe de 27 élèves et les élèves s'absentent souvent et la leçon sur la dissertation a été suivie par quelques élèves seulement. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas suivi, il avait organisé des séances de rattrapage, ces enfants ne viennent toujours pas. Alors maintenant, comment est-ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont pas préparés à affronter ces examens.
On ne peut pas chicoter ces enfants-là, ce sont des majeurs, hein. Ils sont à l'université, plutôt en 6e année secondaire. Ce sont des majeurs. Vous les appelez, ils ne viennent pas. Vous leur avez dit que les points qu'ils vont obtenir, il y aura un pourcentage qui sera réservé au niveau de l'inspection pour calculer le pourcentage qu'il faudra insérer sur les diplômes. S'ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. Ils seront sanctionnés. Il faut se les sanctionner absolument. Ne rien mettre, parce qu'il faut mettre, il faut coter les élèves objectivement. Et coter les élèves objectivement, c'est en fonction du travail qu'ils vous présentent. Mais s'ils ne présentent rien, qu'est-ce que vous allez leur mettre? Rien, 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 rien.
Voilà.
Un bon rond avec des oreilles, voilà, les yeux, la bouche.
Un bon rond avec des oreilles.
Vous les avez cotés subjectivement, non?
voilà.
Okay. Alors, il faut attirer l'attention des parents. Il faut informer les parents.
D'accord. Théophile Mumpano.
Oui, bien sûr.
Alors, pour faire la dissertation, par exemple, vous avez parlé du dialogue. Il y a des sujets comme ça peuvent revenir. Cela demande aux élèves, exige une certaine culture générale, suivre les informations, être informé sur tout ce qui se passe dans le monde. Alors, si l'élève n'a pas l'habitude de suivre des informés, il est tout le temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur d'autres WhatsApp. Alors comment, à quelques jours ou à quelques mois, quelques jours des examens, comment pourra-t-il rattraper et combler tous ces retards-là ? Ou ces lacunes ?
Mais les études sont faites pour ça. Vous avez un médiateur, un guide. Le guide, c'est l'enseignant. L'enseignant doit entraîner les élèves à faire des dissertations de tout genre, sur le plan culture, sur le plan politique, ainsi de suite, sur le plan éthique et sur le plan de la société en général. Et ils font ça sous forme d'exercice et vous corrigez ensemble avec eux pour voir si effectivement ils ont respecté toutes les étapes, et est-ce qu'ils sont dans le bon ou bien ils sont hors sujet. Et puis, vous en profitez aussi pour rappeler un peu certaines règles qui se rapportent à la grammaire et au vocabulaire, à la conjugaison, au participe passé, composé avec auxiliaire, sans auxiliaire, ainsi de suite, parce qu'ils risquent d'aller commettre des gaffes pendant les examens oraux qui viennent après, tels que un élève à qui on demandera de conjuguer le verbe danger, il va dire j'ai danger. Voilà.
Alors, parlons un peu du jury pratique. Un élève qui n'a jamais à l'école, peut-être, pour ceux-là qui font la technique au niveau de l'école, il n'a jamais fait la pratique. Alors, quand il va s'y retrouver là-bas, comment va-t-il s'en sortir?
Mais il ne va pas s'en sortir, Chachama. Il aura des difficultés, absolument. Il aura des difficultés. Oui. Alors, s'il n'a pas des difficultés, c'est que l'enseignant aura utilisé peut-être des mercenaires, ce qui n'est pas normal. Et vous voyez maintenant, parfois certains élèves qui sortent avec des diplômes alors qu'ils ont été 2-3 fois seulement à l'école. Mais ils usagent des mercenaires, tout et l'argent qui coule, tout ça, avec la complicité parfois de la direction qui utilise le labo à côté. Ça, ce sont des antivaleurs que nous sommes en train de décrier, que nous dénonçons. Surtout dans le domaine scolaire. Et nous, aujourd'hui, les élèves sont incapables d'écrire les lettres de demande d'emploi à cause de ça. Et on se plaint. Nous sommes tous des parents et nous sommes des éducateurs et nous ne respectons pas toutes ces consignes-là. Voilà les conséquences. Voilà.
Bien. Papi Kalema nous appelle de Kinshasa. Bonjour, papi.
Bonjour, Excellence Jolie.
On vous écoute.
Bonjour à notre invité. Bonjour aux millions de Congolais qui nous écoutent. J'ai entendu l'invité en train de dire, si vous voulez réussir, il faut que vous ayez l'objectif. Et moi, à mon entendement, je ne pense pas parmi tous les élèves de la 6e année des humanités qui, vraiment, dans son chef, n'a pas la pensée de réussir objectivement, et néanmoins qu'il ne soit insensé. Il y a de ces gens qui suivent tous les programmes, ils sont réguliers au cours, très intelligents, mais ils échouent. Je peux vous donner un exemple typique, parce que j'ai été témoin oculaire et auriculaire d'un ami, d'un collègue qu'on était ensemble au maquis. On avait un maquis de 3 groupes dans une maison. Ces 3 groupes constituaient 15 personnes. Dans chaque groupe, il y avait 5 personnes. Deux groupes de littéraires, un groupe de pédagogie.
Oui.
Donc, cet ami-là priait, il allait chaque fois à la prière. Lorsqu'il y a un programme à l'église, il faut qu'il s'en aille. Et c'est cet ami-là qui avait joué. Parmi les 15 personnes qui étaient dans ces maquis-là, il n'y a que lui. Il avait 14 réussites. Il était très intelligent, appliqué, suivant tous les programmes réguliers au cours. Dans des séances.
Papi Kalema, pensez-vous qu'il est important à ce stade d'aller au maquis pour préparer les examens hors session?
Il est important parce que par rapport au programme qu'on nous donne chaque jour, c'est dans le mois d'avril, tous les élèves se réunissent pour qu'ils aillent quand même au maquis. qui constituaient bon, leur bagage intellectuel, que sais-je encore. C'est important. Et moi aussi, j'avais une question à poser à notre invité par rapport à ce sujet, parce que moi, je voulais lui poser la question disant que est-ce que le maquis a une importance capitale à un élève pour réussir? Ça, c'est la première question. Un élève qui suit tous les programmes, intelligent qu'il est, est-ce que il peut, lorsqu'il échoue, qu'est-ce qui fait à ce que cet élève échoue, intelligent, suivant tous les programmes,
d'accord. Merci,
en étant régulier.
D'accord, merci. Elie, vous êtes aussi à Kinshasa. Théophile Mumpalo, je vais vous demander encore une fois de fermer la radio ou de vous éloigner de votre poste récepteur parce que ça produit des effets, des effets à l'antenne et c'est désagréable. Elie de Kinshasa, bonjour.
Bonjour à la radio Capi, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question?
Ma préoccupation est que quel conseil pouvez donner aux élèves alors qu'ils se préparent pour faire les examens d'État et ils profitent de cette occasion pour commencer peut-être à faucher à leurs parents, soit par exemple on leur a demandé 22 000 par exemple pour la dissertation et profitent de cette occasion pour commencer à demander peut-être 45 000 alors que les parents ne font même pas les contrôles à l'école pour mieux savoir que non, c'est que l'enfant a demandé comme argent. C'est une réalité ou pas? Quel conseil pouvez-vous donner vraiment et notre invité vraiment à ce sujet?
Merci. Théophile Mumpalo, Papi Kalema demande, il y a certains élèves intelligents, mais qui échouent aux examens d'État. Comment expliquer cela? Et quel conseil vous pouvez prodiguer à ces élèves-là?
Oui, il y a certains élèves bien qu'intelligents qui échouent, mais il y a des raisons qui ne sont pas apparentes, apparemment. Permettez un peu la tautologie. Cet enfant qui échoue, il y a des raisons parmi lesquelles on peut citer peut-être les parents n'ont pas... Les parents de cet enfant-là sont dans un état conflictuel, dans une situation de conflit. Vous ne savez pas cet enfant-là de quelle famille il vient. Il a assisté au conflit entre papa et maman, tout ça, le tiraillement avant son examen. Ou bien son état de santé pose problème. Il est malade, ou bien il est inquiétude, il est inquiet, il a peur d'échouer. Mais autant de raisons qui peuvent expliquer ça. Parfois, on peut pas parler de la malchance. Oui, il a échoué, c'est un cas de malchance aussi. Ça peut arriver. Autant de raisons peuvent expliquer son échec. Moi, j'en connais. Il y a des étudiants, des élèves qui étaient très brillants, arrivés aux examens d'État, qui ont échoué. Et l'inverse aussi, ceux qui étaient très faibles qui ont réussi. Et je me rappelle, quand j'étais au collège, il y a un enseignant, un prêtre qui nous disait, ceux qui vont obtenir 55, tout ça, ce sont ceux-là qui ne pourront pas aller à 55 ou moins, qui ne pourront pas aller à l'université. Tandis que ceux qui auront plus de 55 pourront aller à l'université. Mais vous savez que parmi mes condisciples de l'époque, il y en a qui avaient de 55, 54, qui sont des assistants, qui sont des professeurs d'université aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être à la base de ces échecs-là malheureux, de ces élèves qui sont studieux, qui arrivaient à la dernière minute, échouent. Voilà, pour répondre à notre ami. Ça, c'est sa première question.
Voilà, sa première question. La deuxième, il veut savoir, est-ce que le maquis est important dans
le maquis, je reviens.
D'ailleurs, cela a été interdit par le gouvernement.
Oui, c'est
par le ministère des tutelles.
Cette personne, je ne veux pas faire sa publicité et tout ça, qui était brillant dans un collège où il étudiait. Et ses amis lui ont dit, bon, alors, au maquis. Vous savez qu'il n'a pas fait longtemps, il est revenu à la maison. Pourquoi il est revenu à la maison? Parce qu'il passait son temps à expliquer la matière à ses collègues. Il dit, mais mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, je passe tout mon temps là-bas, et au lieu d'étudier, j'explique aux autres. Bon, ça c'est un. Deux, il faudrait que ce maquis soit organisé par l'école, j'insiste, par la direction de l'école, pour éviter un comportement immoral de la part des élèves. Il y en a qui profitent du maquis pour faire n'importe quoi. Absolument. Le maquis doit servir à l'école de suivre le comportement.
Voilà.
Est-ce qu'ils étudient?
Bien.
Et comment ils se comportent?
C'est au film, mon palo.
Et puis, oui. Inviter certains professeurs pour aider ceux qui ont des difficultés dans certaines
d'accord.
matières.
Alors, Théophile Mumpalo, on va clôturer dans quelques instants. Vous allez, Elie, Élie de Kinshasa dit que certains élèves profitent de cette période pour demander un peu plus d'argent aux parents.
Mais ça, vous savez, l'éducation de base, hein. L'éducation de base provient de la famille. Ces élèves-là qui se comportent de ces... Mais comment ils se comportent dans leur famille? Est-ce qu'il est demandé aux enseignants d'aller vérifier comment ils se comportent en famille? Non. Les parents doivent veiller à partir de la naissance de leurs enfants à leur inculquer l'honnêteté. Aujourd'hui, nous sommes en train de décrier la corruption dans les administrations, dans des secteurs, les champs élevés, tout ça.
Alors, Théo, si nous parlons. Oui.
Ils n'ont jamais appris ça au niveau de leur famille.
C'est ça. Alors,
d'accord. Donc, les parents doivent inculquer l'honnêteté à leurs enfants à partir de la maison.
Bien, merci, voilà. Merci Théophile Montpalo. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sciences de l'éducation. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler des préparatifs.
Au plaisir.
Au plaisir. Bonne journée.